Noémie de Sarzan.
Les sociaux-démocrates en tête en Roumanie, mais percés de l'extrême droite. Ce sont les résultats à la sortie des urnes en ce dimanche d'élections législatives cruciales dans le pays. Les sociaux-démocrates engrangent 26% des voix, devançant les autres formations. Mais l'ensemble des forces d'extrême droite combinent 30% des voix. Des estimations à prendre avec prudence dans l'attente des résultats partiels. Soutien de la Russie en Syrie pour repousser les rebelles dans le nord du pays. Cette aide se concrétise par des forces aériennes russes bombardant les régions d'Idlib, de Hama et d'Alep. Car après Idlib, autour d'Alep d'échapper au contrôle du régime syrien. Une première depuis le début de la guerre civile en 2011. Le président Bachar el-Assad promet d'utiliser la force pour éradiquer le terrorisme selon ses termes. Suspension de l'aide à Gaza de l'UNRWA depuis un point clé à la frontière avec Israël. La raison de cet arrêt, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens explique que l'acheminement de l'aide humanitaire par ce passage est devenu trop dangereux. Au Tchad, fin des accords militaires avec la France. Le Tchad est le dernier pays d'Afrique centrale à abriter des forces françaises au Sahel, une région où Moscou gagne du terrain. Mais le président tchadien l'assure, son pays n'est pas dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre. Suspension des projets d'extraction minière sous-marin en Norvège. Il était prévu de délivrer un permis de prospection minière sous-marine dans les eaux norvégiennes l'année prochaine. Mais le parti de la gauche socialiste dit avoir arraché cette concession pour apporter son soutien au projet du budget 2025 du gouvernement. Doublé suisse en ski alpin, première victoire de Camille Rast en Coupe du Monde à Killington aux États-Unis. La Valaisanne remporte le slalom devant sa compatriote Wendy Holdener. La Valaisanne d'origine neuchâteloise, Mélanie Meillard, termine elle à la cinquième place. On poursuit avec du football, match nul, un partout entre Lausanne et Bâle, le leader de la Super League au Parc Saint-Jacques. Défaite en revanche d'Yverdon à domicile contre Lucerne sur le score de 1-0. Aucun vainqueur dans le derby zurichois, Zurich et Grasshopper se sont quittés sur un nul 1-1. En hockey sur glace, Lausanne subit sa troisième défaite consécutive en National League. À Ambry, les Vaudois s'inclinent 4-3 et cèdent la troisième place à Berne. Un début de semaine tout gris ce lundi avec quelques rares rayons de soleil, surtout durant la matinée. Retour de la pluie dans l'après-midi, la limite pluie-neige s'abaissera à 1300 mètres dans la nuit. Maximum 10 degrés en Valais, 9 dans le Jura. Et la météo continuera d'osciller entre accalmie et averse toute la semaine. Mardi, les gouttes de pluie se transformeront en flocons des 900 mètres d'altitude.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Avec la RTS, cultivons la passion du sport. Du 11 au 15 décembre, les meilleurs cavaliers et chevaux du monde se réunissent à Palexpo pour le 63e concours hippique international de Genève. 5 jours de compétition avec la 23e finale du Top 10, le Cross Indoor et bien d'autres épreuves spectaculaires. Et en apothéose, le Grand Prix, une des 4 étapes du Grand Chelem de saut d'obstacle. Plus d'informations sur chi-genève.ch. Retrouvez le CHI le vendredi 13 décembre dès 18h15 et le dimanche 15 décembre dès 11h30 sur RTS2.
Tribu, Julien Magnolet.
La Suisse romande connaît depuis une vingtaine d'années une forte poussée démographique. De nombreuses nouvelles constructions et aménagements voient le jour. Alors qui dit nouvelle construction dit bien souvent mise à l'enquête, permis de construire. D'où vient ce système de vérification en amont des travaux? À quoi sert-il? Et pourquoi certaines constructions ou transformations, même intérieures, doivent-elles passer par une mise à l'enquête publique alors que d'autres pas? Bonjour Benoît Beauvais.
Bonjour Julien Magnolet, merci de m'avoir invité pour faire partager ma passion, ces ondes.
Une passion qui vous habite depuis plusieurs décennies. Vous aviez fait votre thèse sur la question des permis de construire. Vous sortez un petit livre aux éditions du Savoir Suisse, le permis de construire. Et vous êtes Benoît Beauvais, avocat spécialiste en droit de la construction et de l'immobilier, et professeur aussi à l'Université de Lausanne. Merci beaucoup d'être en direct chez nous à La Sala. Alors ça date de quand cette idée qu'il faut demander avant de construire un bâtiment, une infrastructure? structure des autorisations. C'est récent ?
Non, c'est ancien, puisqu'à la fin du 19e siècle, il y avait déjà effectivement l'institution du permis de construire. La seule différence, c'est qu'à l'époque, si l'autorité ne répondait pas, on pouvait démarrer. Ça, c'est le rêve des promoteurs actuels.
Comment ça, s'ils ne répondaient pas ? Donc, on pouvait envoyer une lettre un peu comme ça, mal écrite, qui se perdait dans les tiroirs de l'administration, c'est ça ?
Alors non, il fallait que le dossier soit complet. Et si l'autorité tardait à répondre, on considérait qu'il y avait une autorisation tacite, ce qui n'est plus le cas depuis la moitié du XXe siècle.
À l'époque, me semble-t-il, à vous lire, la première préoccupation, c'était une question d'incendie, c'est juste ?
Absolument, non seulement d'incendie, on a vu qu'il y avait plein de prescriptions, par exemple, sur les cinémas, mais aussi de salubrité. Et c'était l'époque où on commençait à se poser des questions d'hygiène. Il fallait qu'il y ait des cabinets d'aisance pour les logements, il fallait que les pièces aient une certaine taille et des ouvertures de la lumière.
Alors, permis de construire, mise à l'enquête publique, ça sert à quoi ? D'ailleurs, vous faites un petit clin d'œil. Est-ce que c'est juste une espèce de lubie de gens de l'administration qui veulent tout contrôler ? Ça sert à quoi un permis de construire ?
Alors, permis de construire sert à deux choses. La première chose, c'est que effectivement l'administration doit s'assurer que le projet est conforme aux lois, aux règlements, et il y en a beaucoup en cette matière. La deuxième chose, il s'agit de publier le projet pour que les tiers, les voisins, d'autres personnes intéressées puissent prendre connaissance de ce qui sera fait, soient entendus le cas échéant dans cette procédure et ne soient pas surpris de la construction qui sera faite ultérieurement.
Mais on peut se dire, tiens, une personne, un privé a un terrain, il désire construire quelque chose sur ce terrain, c'est de la propriété privée, pourquoi est-ce que les voisins, voire même plus loin, ont leur mot à dire là-dessus ?
Alors bien entendu que la propriété privée est garantie en Suisse, la liberté de création aussi, l'utilisation est aussi garantie. Simplement, pour toute décision administrative, on doit entendre les gens qui pourraient invoquer leurs droits, qui pourraient protester, qui pourraient critiquer l'objet, et on le fait par la procédure de permis de construire, soit par l'enquête publique, ce qui est plus simple que d'entendre toutes les personnes concernées.
Mais c'est la demande pour un permis de construire, c'est d'abord protéger dans le fond, que les lois soient appliquées, ou est-ce que c'est aussi protéger le promoteur lui-même, ou peut-être le maître d'ouvrage, ou les voisins? Est-ce qu'il y a une priorité, dans le fond, dans les personnes qui sont concernées?
Il n'y a pas de priorité. Les trois sont concernés. C'est vrai que celui qui construit, le propriétaire individuel, lambda, ou le promoteur habituel, déposer un dossier bien formalisé, ça lui permet d'être au clair avec lui-même, d'une part, et qu'il n'y ait pas de malentendu avec l'administration, avec ses entreprises. Et on pourra contrôler après que ce qu'il a mis à l'enquête, le permis de construire qu'il a obtenu soit correctement réalisé, sans modification. Et puis, d'un autre côté, l'application des lois, elle est importante. L'État, c'est son objectif. Il doit faire en sorte, pour la commune et l'État, que les lois soient correctement appliquées. Puis enfin, il faut qu'effectivement les tiers soient au courant de ce qui va se faire et ce qui restera pendant plusieurs décennies à côté de chez eux.
Est-ce que ce procédé de permis de construire, mise à l'enquête, permis de construire, est-ce que c'est propre à la Suisse ou on retrouve un peu ça partout en Europe, par exemple ?
Alors, j'ai pas évidemment fait une étude partout, mais ça existe partout. Partout, avant de construire, enfin, dans tous les pays civilisés, on doit effectivement obtenir des autorisations. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué qu'en Suisse. Il y a des pays qui sont plus administratifs que la Suisse. Chez nous, ça existe dans tous les cantons et c'était l'objectif du livre, c'était de présenter un peu les systèmes non seulement le système vaudois, mais ceux des cantons romands, et de montrer les similitudes ou les différences entre les cantons de langue francophone.
Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les cantons en Suisse romande ?
Alors, il y a quelques différences, notamment sur l'autorité qui statue. On sait que Genève, c'est très centralisé, c'est le canton, alors que dans le canton de Vaud, ce sont les communes. Mais après, il y a des répartitions de compétences plus fines, les préfets, par exemple, à Fribourg, ou bien, selon la typologie en Valais, vous avez les communes qui statue sur certains types de permis, l'État sur d'autres, voire même par exemple en Valais. Ce qui est très intéressant, c'est que dès le moment où la collectivité, la commune construit pour elle-même, c'est plus la commune qui donne le permis, comme dans le canton de Vaud, mais c'est une commission indépendante.
C'est intéressant, ça, effectivement, pour pas qu'il y ait peut-être
un conflit d'intérêt.
Voilà, conflit d'intérêt, juge est parti. Dans le canton de Vaud, on connaît lorsqu'il y a une nouvelle construction, ou bien peut-être un étage supplémentaire qui est construit, il y a tout le temps les gabarits, et puis cette petite affichette orange qui décrit succinctement les travaux. Ça, on le retrouve dans tous les cantons de Suisse romande?
Non. Et même pas dans toutes les communes de Suisse romande, parce que ça, c'est du canton de Vaud. Parce que ça, c'est effectivement, ça dépend du règlement. La loi cantonale prévoit que l'autorité, la commune principalement, peut exiger des gabarits, un profilement, peut. mais c'est pas obligatoire, alors que par exemple la commune de Lausanne exige systématiquement le profilement et la petite affichette. Ce sont deux très bons moyens de publicité, parce que quand vous vous promenez, vous voyez effectivement ce qu'il y a, tandis que il y a des communes qui ne demandent pas de profilement de la construction, pas de gabarit, et ne mettent pas d'affichette.
Mais il doit quand même, alors c'est obligatoire qu'il y ait une forme de publicité de quelque chose qui va se passer dans un champ où on va construire par exemple 15 logements. Qu'est-ce qui se passe? C'est au pilier public?
Oui, c'est au pilier public, c'est publié dans la feuille des avis officielle, c'est publié sur Internet maintenant, ça c'est clair. Vous pouvez, alors dans le canton de Vaud, vous avez un système, vous pouvez vous abonner et obtenir les avis de publication de tout ce qui se passe aux alentours de chez vous, ce qui simplifie quand même le travail. Mais ça c'est assez variable selon les cantons.
Alors souvent les promoteurs, ils aiment pas trop cette phase de mise à l'enquête publique, parce que non seulement des gens peuvent s'y intéresser, s'y opposer, mais aussi pas mal de... c'est quelque chose qui est très scruté par les journalistes, parce que ça permet de savoir ce qui va se passer à gauche et à droite. Je l'ai beaucoup pratiqué par le passé, ayant travaillé dans la presse écrite. Il y a quand même cette envie de justement publiciser, dire voilà, il va se passer ça à tel endroit, on va construire ce bâtiment et il sera comme ça. Certains y voient un peu une curiosité mal placée, parce qu'on peut aller assez loin dans la description des futurs bâtiments.
Il est évident qu'il faut respecter le droit d'être entendu des tiers. C'est évidemment tout le problème juridique qui est mis en avant. Alors, c'est pas forcément le droit d'être entendu des journalistes, mais quand on construit, on va construire de manière ouverte, publique, on verra ce qui se fera. Évidemment, certaines personnes considèrent que aller dans l'intérieur des constructions, ça pose des problèmes. Ben non, la plupart du temps, de savoir si la salle de bain a telle ou telle dimension, c'est pas ça qui va intéresser les journalistes ni les tiers. Mais ça, c'est le principe. Les plans sont publiés, les plans sont publics, vous pouvez en obtenir des photocopies, le cas échéant, et puis vous vous exprimez si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des remarques à faire.
Mais ils sont publics pendant un certain laps de temps, parce qu'une fois que l'enquête est refermée, ils ne sont plus accessibles, c'est juste ?
Ils sont accessibles en fonction effectivement du droit de la transparence des actes d'administration. Vous pouvez aller voir. Et puis ne serait-ce que si vous avez un intérêt, si vous êtes un voisin, puis vous avez des doutes sur le respect des plans, vous pouvez y accéder.
Alors, il y a la question assez centrale, dans le fond, lorsqu'on parle de mise à l'enquête publique et ensuite de permis de construire, de qu'est-ce qui passe sous ce radar-là? Est-ce qu'il y a des normes et est-ce qu'elles changent beaucoup en fonction des communes et des cantons?
Alors, il y a un principe très général qui résulte du droit fédéral. Toute construction ou installation, soit un objet créé par la main de l'homme qui a un effet assez sensible sur le terrain, sur un bâtiment, doit faire l'objet d'un permis de construire. Puis à partir de là, les cantons ont leur propre définition. La plupart ont simplement repris la définition du tribunal fédéral, création artificielle, qui est durable, etc. Et puis certains cantons ont des définitions un peu plus précises. Et surtout, par exemple, le canton de Vaud a une sorte de liste en disant « voilà ce qui doit faire l'objet d'un permis de construire, voilà ce qui doit être mis en enquête publique », parce que vous avez des cas permis de construire, mais pas forcément enquête publique pour les petites constructions. Il faut que l'administration contrôle, mais ça sera dispensé d'enquête publique. Et puis il y a des cas qui ne font l'objet ni de permis de construire, ni même d'enquête publique, une clôture, peut-être un arbre ou des choses comme ça.
C'est ce qu'on appelle une enquête administrative, c'est juste lorsque c'est seulement l'administration qui regarde que la construction est conforme.
On appelle ça plutôt une dispense d'enquête publique.
Dispense d'enquête publique.
Mais c'est juste, alors, une enquête administrative.
Mais il y a des choses qui sont, par exemple, énormes, mais qui sont éphémères. Certaines demandent des enquêtes, d'autres pas. Vous donnez l'exemple du Paléo Festival. Est-ce que le Paléo Festival, chaque année, doit mettre à l'enquête publique ses scènes, etc.?
Non, parce que le Paléo Festival a offert un plan d'affectation spécifique et puis tout ça a été régularisé. Maintenant, c'est une autorisation qui est donnée. Alors, je ne sais pas comment est-ce que Nyon le fait. Je sais qu'il y a eu de la jurisprudence pour l'arène de la Fête des Vignerons, où effectivement, pour l'arène de la Fête des Vignerons, s'était posé la question de la procédure à suivre. Et comme ça devait rester pendant un certain nombre de mois, ça a été mis à l'enquête publique. Et ça a fait l'objet d'ailleurs de contestations.
Et par exemple, là on voit beaucoup fleurir à gauche, à droite, des marchés de Noël. Est-ce que ça doit être mis à l'enquête publique?
Alors, les constructions provisoires, en principe, pas.
Mais il y a des constructions provisoires qui restent, par exemple, 6 mois, mais qui reviennent d'année en année et qui, là, doivent des fois passer.
Absolument.
Par des...
Au-delà d'un certain nombre de mois ou en cas de répétition, ça doit faire l'objet d'une enquête publique. Et puis, il y a toujours un critère qui est celui de l'atteinte à d'autres intérêts publics. Par exemple, si ça porte atteinte à un bâtiment protégé, à une source ou autre, là, il faudra passer par une enquête et surtout un permis de construire. Et puis, également, si ça peut porter atteinte au voisinage avec une certaine intensité, se pose la question du permis de construire pour que les tiers puissent intervenir.
Donc c'est pas qu'une question de taille, mais ça peut être une question de nuisance. Absolument. En matière d'odeur peut-être, de bruit, ça...
Oui, on a alors le nombre de litiges qu'il y a pour des porcheries, pour des établissements agricoles, pour des entreprises, des industries en matière d'odeur, ou tout ce qui est bruit, bien entendu, c'est des choses qui comptent.
Ce qui m'a étonné à vous lire, Benoît Beauvais, c'est par exemple qu'un important jardin potager, il doit être mis à l'enquête publique. Pourquoi ?
Alors je crois que le cas en l'espèce, est-ce que c'était hors de la zone à bâtir ? C'est bien possible. Dès le moment où on est hors de la zone à bâtir, c'est encore plus sensible. Tout ce qui est modifié par la main de l'homme peut effectivement ou doit faire l'objet d'une enquête publique et d'un permis.
Nous parlons mise à l'enquête publique et permis de construire ce matin dans Tribu. Mon invité est Benoît Beauvais, spécialiste de la question. On va se pencher sur l'épineuse question des oppositions. Ça sera juste après Madness.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house in the middle of our street.
Something tells you that you've got to make
in the middle of our. Father gets up late for work, mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. One they're going to miss in lots of ways.
Madness, Our House, c'était notre maison, comme on dirait, on traduirait ça en français. On vous retrouve, Benoît Beauvais, nous parlons de maison, mais de construction de manière générale avec vous. Ce matin, on s'intéresse aux mises à l'enquête publique, aux droits de construction. Alors, ben voilà, ça, tout le monde y est confronté, d'un côté ou de l'autre de la barrière, c'est la question de l'opposition, du droit à l'opposition. Lorsqu'il y a une mise à l'enquête publique, qui a le droit de faire opposition ?
Alors, comme je vous l'ai dit, normalement, quand on prend une décision, comme un permis de construire, on doit entendre spontanément tous les gens qui pourraient avoir des griefs à faire valoir ou des intérêts même très généraux à invoquer. Pour éviter ça, on met à l'enquête publique. Ce qui signifie que pendant l'enquête publique, celles et ceux qui souhaitent dire quelque chose, faire des remarques, critiquer, invoquer des problèmes particuliers, peuvent le faire. N'importe qui peut intervenir lors d'une enquête publique.
N'importe qui, pas besoin d'être voisin.
Non, moi je dis toujours à mes étudiants, je leur montre une caricature de Burki, on voit des Japonais qui interviennent contre le toit du Parlement cantonal, je dis bah oui, un Japonais de passage peut faire opposition.
Ça c'est pour l'opposition.
Oui.
Ensuite, qui traite les oppositions ?
C'est la municipalité, voire l'État.
Et il peut lever, qu'est-ce qu'il doit faire ? Certaines oppositions sont levées quasiment dans la séance, d'autres
non,
pas.
Non, alors au moment de la décision de permis de construire, l'autorité va examiner si les griefs des opposants sont corrects ou pas, lever l'opposition ou pas. Et au moment où la décision est prise, on avertit l'opposant que son opposition est retenue, que le permis est refusé ou que le permis est accordé, que son opposition est levée. Et c'est là que l'opposant a un délai de 30 jours pour faire recours.
Et là, lorsqu'on fait recours, donc là cette fois-ci ça va devant la justice, est-ce que tout le monde ou est-ce que aussi les associations ont le droit de monter à cet âge-là ?
Alors effectivement, dans le canton de Vaud, comme le droit d'opposition est très large, le tri se fait au niveau du recours. Seuls ceux qui sont vraiment touchés par le projet, il faut être pas trop loin du projet, ou il faut le voir, ou l'entendre, ou le sentir, peuvent recourir. En revanche, vous avez d'autres cantons où on est plus strict et plus resserré sur le droit de faire opposition. On va déjà contrôler au niveau de l'opposition qui peut le faire et qui a un intérêt à le faire, ce qui ensuite leur permettra de recourir sans qu'on doive examiner. Donc à un moment donné, il y a de toute façon un tri. Mais dans le canton de Vaud, n'importe qui peut intervenir pour faire valoir ses moyens. Dans d'autres cantons, c'est la même chose. En revanche, le recours, il y aura cet entonnoir.
Et donc il y a un tri qui se fait à un moment donné aux personnes qui ont le droit de faire recours, ça dépend à quel niveau, au niveau des cantons. Est-ce qu'une association environnementale ou de défense du patrimoine peut faire recours ?
Oui, ça c'est même garanti par le droit fédéral, où les associations de protection du patrimoine bâti, par exemple, ou les associations telles ProNatura, protection du paysage, de la nature, ont un droit de recours, pour autant bien entendu qu'on entre dans un objet qui est protégé ou qui porte atteinte effectivement à l'environnement ou au paysage.
C'est compliqué lorsqu'on construit, il y a la question de l'esthétique. Est-ce qu'on peut dire, écoutez, ce futur bâtiment est absolument moche, il ne faut pas qu'il soit construit comme ça à côté de chez moi. Est-ce que l'esthétique compte ?
Oui, ça compte et ça compte à mon avis de plus en plus. Pourquoi ? Parce que le droit fédéral a certes admis une densification dans les territoires bâtis, mais en même temps que la qualité. Mais aujourd'hui, on ne peut que construire de façon qualitative. Et on est de plus en plus sensible aux problèmes d'esthétique. Et l'esthétique, contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est pas des questions de goût et des couleurs, comme on disait avant. C'est effectivement une notion qui est juridique, qui doit être appliquée, qui est difficile à appliquer. Et certaines communes se font aider, par exemple, par des architectes, par des commissions, pour pouvoir apprécier si le projet est suffisamment de bon niveau esthétique ou pas.
Et ça permet, par exemple, il y a certains quartiers, on sait qu'à Lausanne, il y a une grande pression démographique, comme dans d'autres villes, Genève encore plus. Est-ce que cette dimension peut être invoquée, par exemple, par un exécutif pour dire, écoutez, on a affaire soit à un bâtiment, soit à un ensemble bâti qui est esthétique, mais est-ce qu'ils doivent, pour se faire, s'appuyer sur, des données concrètes, des inventaires ou des choses comme ça, ou ICOMOS, qui existe aussi au niveau fédéral, pour pouvoir faire passer ce genre d'argument ?
Absolument. Et d'ailleurs, Lausanne a une déléguée au patrimoine, a mis en place une commission consultative d'architectes qui va se prononcer sur certains projets sensibles. Il y a des notes qui sont données aux bâtiments existants, jusqu'à 1, 2, 3, 4. Et là, on est beaucoup plus sensible. On évite de les démolir. Après, évidemment, il y a le politique, où parfois le politique va peut-être plus loin que les nécessités de protection qu'on aimerait avoir.
Il y a la fameuse ancienne halle aux locomotives du côté de Lausanne, qui abrite le nouveau musée des Beaux-Arts. Là, je crois que c'était une note 2, ce qui n'a pas empêché sa quasi-démolition. Je crois qu'il reste plus ou moins quelques pierres d'origine, mais là, il y a eu une démolition.
Absolument, et évidemment, c'est tout à fait regrettable d'aller jusque-là. Bon, c'était un concours d'architecture, c'était un choix, la procédure a été faite de manière très complète, mais il y a eu des contestations.
On parle parfois aussi d'opposition lorsqu'il y a une enquête publique, mais aussi d'observation. Est-ce que c'est différent, une observation, une opposition ?
Alors ça, c'est très vaudois. Parce que, effectivement, dans le canton de Vaud, vous pouvez faire des oppositions, des observations, et on admet en général que seuls les opposants puissent recourir. À mon avis, c'est discutable. Toute personne qui a participé à l'enquête, pour autant qu'il ait un intérêt suffisant, peut recourir, respecte les critères habituels. Mais il y a cette remarque. Alors, certaines personnes, pour pas froisser le voisin, disent « je me limite à faire une observation, une remarque, parce que j'ai un point accessoire à traiter et j'ai pas envie de faire opposition au projet lui-même. »
Si on se met de l'autre point de vue, pas du côté des gens qui font opposition, mais des gens qui font leur projet, qui veulent construire une nouvelle maison ou bien rajouter je ne sais quoi dans leur jardin, pourquoi, souvent ce qu'on entend c'est ça dure longtemps, dès qu'il y a une mise en enquête ça dure longtemps, qu'est-ce qui fait que ce procédé met un certain temps à aboutir ?
Il y a deux choses, d'abord la charge des autorités parce qu'elles sont confrontées à beaucoup de projets et puis ensuite parce que un projet de construction et la procédure de permis de construire permet de le concrétiser, c'est un peu comme une symphonie, il y a énormément d'instruments, il y a énormément de notes, il y a énormément de lignes de partition. pour arriver à un projet, donc c'est complexe.
Là, il y a des grandes différences, disparités entre les cantons en matière de durée pour obtenir un permis de construire ?
Alors, d'après ce que j'ai vu, non. Et il y a des cantons qui sont plus lents même que, si on peut dire, que la critique qu'on fait parfois à certaines communes ou à l'administration cantonale. Mais ça fonctionne globalement bien. Et puis, il faut se dire qu'après, on construit pour 100 ans et pas pour 6 mois.
On a parlé de ces nouveaux bâtiments, là on comprend, il y a un aspect visuel, ça peut bloquer une vue, ça peut avoir un effet sur le quotidien. Il y a des choses qu'on n'a pas encore évoquées, c'est que parfois un changement d'affectation d'un local, donc un local existe, mais on change son affectation, et là il faut aussi une mise à l'enquête. Comment l'expliquer ?
Ben parce que c'est plus la même chose. Si vous avez à côté de chez vous un logement ou si vous avez un commerce qui a une certaine intensité, ça peut avoir un impact.
Donc c'est pas qu'une question de volume, à nouveau ?
Absolument.
Sur la question maintenant énergétique, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont arrivées, qui n'étaient pas là peut-être encore il y a 15-20 ans, les pompes à chaleur, les cellules photovoltaïques, comment ça se passe ? Est-ce que là, il faut mettre à l'enquête ?
Alors, il y a certains types de panneaux solaires jusqu'à une certaine dimension, et pour autant qu'ils soient très bien intégrés, qu'ils peuvent être dispensés effectivement de permis de construire, et actuellement aussi, certains types de pompes à chaleur peuvent l'être. Mais il y aura toujours le problème d'une éventuelle atteinte au voisinage.
Oui, parce que la pompe à chaleur, en tout cas actuellement, ça peut faire notamment... C'est du bruit, c'est plutôt... Oui. C'est pas une question d'esthétique, mais de bruit.
Bien sûr. Oui.
Donc, si on avance dans le procédé, à un moment donné, il y a le permis, je crois, d'habiter ou d'utiliser. Qu'est-ce que c'est que ce permis d'habiter ou d'utiliser ?
Et c'est là que l'autorité va contrôler la conformité de ce qui a été fait par rapport au plan d'une part, et d'autre part, que tout soit en ordre, que ça soit suffisamment sûr et salubre pour que les gens puissent habiter. Et ça, c'est important parce qu'il y a eu des accidents de personnes qui occupaient des lieux avant un permis d'habiter ou d'utiliser, sans qu'il y ait eu le contrôle de l'administration, le contrôle final.
Mais il y a tout le temps un contrôle, même pour les petites habitations, je sais pas, une modification dans un, oui, oui. Dans un bâtiment, oui. Vérifier que les
Alors, bombes, dans le canton de Vaud, sont... oui. Dans d'autres cantons, vous avez une sorte de contrôle qui est fait par une entreprise, un certificat de conformité qui est fourni par le constructeur, un peu comme en matière d'électricité.
Est-ce que, si on revient sur la question des oppositions, c'est possible et légal de monnayer le retrait d'une opposition ? Est-ce qu'un promoteur peut faire ça ?
Alors, c'est admis pour autant que celui qui obtient ça a une contrepartie, c'est-à-dire que vous acceptez qu'on mette un étage de plus devant chez vous et c'est évidemment une gêne qui va être payée. Autrement, c'est tout à fait discutable, voire immoral, mais ça peut exister, c'est assez rare. Moi je le vois, alors je crois que je l'ai quasiment jamais vu dans mes nombreux cas.
Il y a des grands projets parfois d'infrastructures qui sont retardés de plusieurs années parce qu'il y a une personne, un voisin qui fait opposition jusqu'au tribunal fédéral. En fait, il y a pas de limite, on peut tout le temps aller jusqu'au tribunal fédéral.
Ça, c'est la Suisse qui souhaite effectivement garantir les voies de droit, mais il faut chaque fois pouvoir démontrer qu'on a qualité pour le faire.
J'ai parlé de la vue tout à l'heure. Est-ce que la vue, c'est si je perds de la vue, ça suffit pour faire opposition et peut-être pour gagner ?
Non. La vue, ça vous légitime pour recourir, le cas échéant, parce que vous êtes confronté à ça, mais c'est pas un moyen de droit de fond, à moins que vous ayez une servitude. Alors simplement, vous avez effectivement ce livre, j'espère qu'il servira à beaucoup de gens, des architectes qui me posent souvent des questions, des propriétaires. Je dis toujours que c'est un joli cadeau de Noël qui sera peut-être sous les prochains sapins.
Effectivement, il est très complet parce qu'il parle de tous les cantons romands, donc sur cette thématique du permis de construire, c'est le titre de cet ouvrage paru aux éditions du Savoir Suisse. Je rappelle, Benoît Bovec, vous êtes avocat spécialiste du droit de la construction et de l'immobilier, professeur à l'Université de Lausanne. Bonne suite de journée à vous.
Merci beaucoup.
Et à la technique ce matin, il y avait Luana Biadici, Eloïse Nussbaum et l'attaché de production de Tribu, Bastien Arnold, est en charge de la programmation musicale.
Tribu, Julien Magnolet.
Le point J, en nouvelle diffusion.
À vous aussi, quelques notes suffisent ? Ou quelques mots ?
Je suis le maître du monde !
Ouais ! Vous faites partie, comme des millions de gens, des fans du film Titanic de James Cameron ?
RTS.
C'est en tout cas ce qui fait venir beaucoup de monde à l'exposition éponyme à Lausanne. L'une de ces expos blockbusters, décors et tarifs imposants, qui se déroulent en parallèle aux États-Unis, en Allemagne ou encore en Pologne. Dans la boutique, les objets dérivés de l'insubmersible aux 1500 morts. Casquettes et tote bags, peluches, vaisselle ou même un moule à glaçons en forme de paquebot et d'iceberg. On peut aussi se faire photographier sur une fausse proue façon Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Ça vous choque? En voyant tout ça, moi je me suis demandé, mais pourquoi le Titanic continue à fasciner autant et à brasser tout cet argent?
Le point J.
Avec Caroline Stévan et Antoine Reich, historien, président de l'Association française du Titanic et auteur de « Le Titanic, de l'histoire au mythe » aux éditions La Geste. Vous saviez qu'un seul objet projeté de l'épave et tiré du fond de l'océan Atlantique a le droit d'être commercialisé? Antoine Reich nous dira lequel. Bonjour Antoine Reich.
Bonjour.
La fascination pour le Titanic perdure 112 ans après son naufrage, comment l'expliquez-vous?
C'est un événement qui a marqué les esprits dès qu'il est survenu, notamment parce que le Titanic faisait son voyage inaugural, donc qui était déjà relativement sous le feu des projecteurs avant même de couler. Ensuite, parce que parmi les personnes victimes, il y avait plusieurs célébrités, donc ce qui a d'autant plus attiré l'attention. Et enfin, parce que c'était un naufrage qui concernait vraiment le monde entier, puisqu'on avait des passagers qui venaient principalement d'Europe, mais on avait aussi quelques Chinois, un Japonais, des gens d'Amérique du Sud. Donc ça a parlé un petit peu à tout le monde. Les catastrophes fascinent généralement parce qu'on est attiré aussi un petit peu, il faut le dire, par le morbide. Et là, dans le cas du Titanic, s'ajoute une dimension très romantique dans le sens où on a une catastrophe qui est vraiment venue du naturel, un iceberg, le summum de la technologie qui est rabaissé par la nature. Ça a posé des grandes questions sur le nombre de personnes qui avaient pu être sauvées, les dispositifs de sauvetage qui étaient insuffisants. Et donc cette image de nombreux maris du coup qui restent derrière et qui laissent leur femme partir, d'autres de femmes qui refusent de quitter leur époux. Et donc finalement, ça pose tout un tas de questions sur l'héroïsme, la lâcheté, qui sont personnellement des termes que je refuse dans cette histoire, mais qui sont des catégories qu'on aime bien utiliser. Et donc c'est évidemment très facile, en plus, depuis nos fauteuils un siècle plus tard, de réfléchir à ce qu'on aurait fait et si possible de s'imaginer avoir le beau rôle. Mais il y a aussi des gens qui vont être fascinés par le navire lui-même, parce que les paquebots déjà fascinent beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui s'échinent par exemple à le reconstituer, que ce soit en maquette ou sur ordinateur maintenant.
Fasciné par le navire lui-même et son opulence. À l'époque, c'est le paquebot le plus grand, le plus luxueux jamais construit, réputé insubmersible. On y trouve un gymnase, des bains turcs électriques, une piscine, une salle de squash, plusieurs cafés et restaurants, le fameux grand escalier à double volée, des ascenseurs. Certaines cabines de première classe s'inspirent des suites des plus grands hôtels avec salle de bain, lit à baldaquin, salon, promenade. Dès le départ, donc, le Titanic brasse de l'argent. Un aller en première coûte jusqu'à 80 000 dollars actuels. À bord, notamment, le millionnaire Astor et l'actrice Dorothy Gibson. L'attrait, forcément, est immense, démultiplié dès les premiers instants de la catastrophe.
On est dans une société qui est déjà très connectée en réalité, puisqu'à l'époque, on a la télégraphie. Et en plus, on a la télégraphie sans fil qui fait que depuis une dizaine d'années à peu près, les navires peuvent communiquer entre eux et puis avec la terre ferme. Ce qui fait que finalement, pendant que le Titanic est en train de couler, la nouvelle qu'il a heurté un iceberg commence à parvenir à terre. La plupart des journaux se contentent de dire qu'il a heurté un iceberg et qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Le New York Times décide de prendre un petit peu les devants et de publier dès le départ qu'il a coulé, même s'ils n'ont aucune confirmation. On a un emballement médiatique, en fait, qui a un petit peu la même force que ce qu'on a pu connaître dans des événements marquants où on est un petit peu scotché à nos écrans, comme par exemple les attentats, que ce soit du 11 septembre 2001 ou du 13 novembre 2015.
Et dès ce moment-là également, une sorte de business se met en place autour de l'événement. Alors de quel genre ?
Déjà, la presse est un business à part entière dans le sens où, par exemple, l'opérateur radio du Titanic a été payé pour une très forte somme pour l'époque, plus d'un an de salaire, je pense, pour son témoignage qui faisait quelques pages. Il y a énormément de fausses informations qui ont été publiées, des journalistes qui ont parfois publié des faux témoignages pour vendre du papier. Et ensuite, il y a eu, dès cette année-là, des livres, beaucoup de livres publiés, alors certains par des rescapés qui voulaient raconter leur histoire authentique, mais aussi on a ce qu'on appelle des instant books, des livres instantanés, un petit peu comme ce qu'on voit par exemple en marge des campagnes présidentielles, des livres qui sortent 2-3 jours après l'élection et qui ont été presque préécrits. Et on a même des films, deux films sortent dans l'année même, dont un mois après, et qui met en scène une actrice qui était elle-même à bord du Titanic. Et donc elle a tourné un film muet, aujourd'hui perdu, mais dans lequel elle jouait en portant la robe qu'elle portait la nuit du naufrage.
Hormis une légère pause durant la Première Guerre mondiale, des livres continuent à être publiés dans les décennies suivantes, des dessins animés, des films à être produits, y compris un film de propagande nazie qui a visiblement inspiré James Cameron. Mais avant son film devenu culte, c'est surtout la découverte de l'épave en 1985 qui décuple l'intérêt, non ?
Oui, parce que l'épave du Titanic, c'était un petit peu le saint graal des chasseurs de trésors. Descendre sous l'océan, surtout à 4 km de profondeur dans le cas du Titanic, c'est un petit peu comme partir sur la Lune finalement. C'est technologiquement en tout cas aussi ambitieux. Quand cette épave est découverte en 85, ça fait la une de la presse, notamment du magazine Time. Et très vite, on a des grandes émissions télévisées. On ouvre même par exemple un sac retrouvé sur l'épave et qui contient des bijoux en direct à la télévision. On a des films très vite réalisés à partir d'images tirées de l'épave. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui, dès le départ, unit énormément de pays. Puisque, par exemple, en 91 sort un film qui s'appelle Titanica. Et il est tiré d'une expédition qui a été menée par des équipes à la fois américaines, canadiennes et russes, à une époque où le mur n'était pas encore tombé, en tout cas où l'URSS ne s'était pas encore effondré.
Les États collaborent, le paquebot est découvert par une équipe franco-américaine, mais une seule société est aujourd'hui détentrice des droits d'exploitation du Titanic. Les épaves appartiennent à celles et ceux qui les découvrent et en remontent les premiers objets. Ce sera Titanic Venture, fondé par un passionné, puis rebaptisé RMS Titanic. C'est elle qui organise les expositions. Dès les premières explorations, le statut de l'épave et de son contenu suscite des controverses et font l'objet de décisions juridiques. Pour certaines personnes, il s'agit d'un mémorial, d'un cimetière à ne pas profané. Pour d'autres, l'intérêt scientifique ou commercial prime. Une dizaine d'expéditions ont été organisées depuis 1985. RMS Titanic a remonté plus de 5000 objets découverts autour du navire. À l'intérieur, c'est interdit. Morceaux du bateau, dont une section de la coque de 17 tonnes. L'un des chérubins qui ornait le fameux grand escalier. Cloches, vaisselle, effets personnels des passagères et passagers. Une valise pleine de billets, de pièces d'or, de montres et de bijoux. Certains sont présentés à l'exposition de Lausanne et c'est extrêmement émouvant. Vous l'entendrez en fin d'épisode. On dit que RMS cherche encore une cargaison de vin français destinée à un hôtel new-yorkais, des statuettes en bronze, des diamants, la Renault 12 immortalisée par Cameron et surtout la radio qui envoya les signaux de détresse. Alors, à qui appartient tout ça ?
À l'heure actuelle, les objets sont censés être dans une collection indivisible aux mains de la RMS Titanic. Il ne faut pas que ça se répartisse dans des collections de particuliers très riches qui feraient l'acquisition de tel ou tel objet. Et ça, il y a notamment une juge aux États-Unis qui est particulièrement attentive à ça. Ils ont donc des règles aussi à respecter en termes de préservation des objets, et ainsi de suite. C'est très, très coûteux de continuer à entretenir cette collection. Ce qui fait d'ailleurs que c'est peut-être plus un poids pour eux qu'autre chose. Et depuis au moins les années 2000, on a des gros soupçons aussi sur les ambitions et les intérêts réels de la direction de la RMS Titanic, qui sont pas toujours très clairs. Notamment, l'expédition du Titanic en 2000 avait beaucoup fait de bruit là-dessus, parce que on avait évoqué le fait qu'ils voulaient ouvrir la cale pour aller chercher des bijoux, par exemple, et les revendre, et ainsi de suite. Pour l'instant, ils n'ont rien pu faire de tout ça. Il y a une seule exception pour l'instant en termes de commercialisation, c'est le charbon à bord du navire, puisqu'il y en avait des tonnes, des milliers de tonnes même. On a des morceaux qui sont vendus bruts, on a des morceaux qui sont vendus montés en pendentif, et dans tous les cas, à chaque fois, avec un certificat d'authenticité. Ça permet à la RMST de renflouer en tout cas un petit peu ses caisses.
Alors, outre ces morceaux de charbon, de nombreux autres objets sont pourtant vendus sur eBay, aux enchères, comme ce violon qui aurait appartenu au chef d'orchestre cédé plus d'1 million de francs en 2013. Donc ces objets-là ne sont pas censés provenir du site du naufrage ?
Il y a plusieurs types d'objets qui sont vendus aux enchères. Les plus rares, on va dire, qui se vendent les plus chers, sont ceux qui ont été récupérés sur les corps des victimes, puisque dans la foulée du naufrage, la White Star a affrété plusieurs navires pour aller récupérer des cadavres et que dans les 300 cadavres ont été repêchés. C'est comme ça que, par exemple, récemment a été vendue la montre de John Jacob Astor qu'il portait le soir du naufrage. Ensuite, on va avoir d'autres types d'objets, par exemple des objets que des passagers rescapés avaient gardés avec eux dans leur poche. On a retrouvé des plans du navire, des listes de passagers, par exemple. Et puis parfois des objets qui sont liés aux passagers mais qui sont plus éloignés. Ça peut être par exemple des lettres qu'ils avaient écrites par le passé, des choses comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui tourne autour du Titanic finalement se vend très cher. Il y a quelques années, par exemple, j'avais vu sur eBay des fausses montres d'officiers du Titanic vendues pour 500 euros. Une somme ridicule par rapport à ce que ça vaudrait réellement si c'était un véritable objet lié au Titanic, mais ce qui était très cher pour une arnaque.
Alors, outre les expéditions scientifiques, des explorations plus touristiques sont organisées pour des dizaines de milliers de dollars par passager. James Cameron en a par exemple profité jusqu'à l'implosion du Titan en juin 2023 avec à son bord l'un des plus grands spécialistes de l'épave, le français Paul-Henri Narjolet. Est-ce que cette catastrophe remet en cause ce genre de voyage, à votre avis?
Pendant longtemps, il y avait une espèce de mélange des genres parce que ces plongées touristiques étaient réalisées par des équipages scientifiques, notamment dans les sous-marins Mir, qui sont ceux qu'on voit dans les films de James Cameron, mais qui étaient ceux aussi qui participaient aux expéditions de la RMST. Là, ce qu'on a vu avec Ocean Gates depuis les années 2020 globalement, et ça faisait déjà quelques années qu'ils annonçaient ce projet, c'était des expéditions purement touristiques, avec d'ailleurs un sous-marin qui avait été conçu précisément pour ça, avec un énorme hublot panoramique, ce genre de choses. Et on a appris d'ailleurs au moment du drame du Titan qu'une start-up française envisageait d'utiliser ces sous-marins pour organiser des mariages sur le site de l'épave. Pour l'instant, le drame a mis fin à tout ça, notamment parce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est en tout cas la conclusion de l'enquête qui a l'air de se dessiner, qu'il y avait beaucoup de problèmes de sécurité dans ce sous-marin. Alors la question de savoir ce que ça donnera sur la durée, c'est difficile à dire parce que les gens oublient vite que l'appât du gain peut assez facilement attirer et donc rien ne dit que d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, ça reprendra comme avant.
Après les témoignages des rescapés, des descendants de rescapés, on monnaie aujourd'hui les témoignages des réincarnations de rescapés. À New York ou Belfast, des chefs cuisinent les menus servis en 1912 à bord du Titanic. En Chine, un parc d'attractions est à l'étude. Vous n'y voyez donc pas de fin, pas même avec la disparition de l'épave rongée peu à peu, Antoine Reich?
C'est vrai qu'il y a un côté viral. On voit aussi beaucoup prospérer les théories complotistes sur TikTok au sujet du Titanic. Peut-être qu'un jour, un autre drame moins daté dans le temps viendra remplacer celui-là dans les mémoires et les consciences. Mais pour l'instant, en tout cas, je pense que le drame du Titanic garde encore une actualité, notamment parce que même si c'était il y a plus d'un siècle, ça reste des gens qui nous ressemblent.
Merci beaucoup Antoine Reich.
Merci.
Des gens qui nous ressemblent, des histoires d'amour ou de classe sociale universelle. C'est notamment pour ces raisons que le public se presse à l'exposition lausannoise, en provenance de Genève, de Romont, du Valais ou de plus loin encore.
Même ça a été une catastrophe, il y a eu quand même de belles histoires. Le couple qui sont restés ensemble, les musiciens qui ont joué jusqu'au bout.
J'ai vu le film plusieurs fois, mais je ne savais pas tellement intégrer qu'il y avait des Suisses sur le bateau.
Abandonnés de tout le monde, quoi. Ils étaient tout seuls là au milieu de l'océan. 1500 morts qui sont partis au fond. Et étant petit, c'est des images que je me suis fait qui m'ont assez marqué.
Il y a monsieur, madame Reich, les gens de la classe moyenne et puis aussi il y a les autres. Beaucoup de gens qui espéraient partir à New York en quête d'une vie meilleure. On voit carrément des vrais objets de l'époque, donc c'est vrai que ça donne assez des frissons.
J'aime bien les vraies histoires, les vrais objets aussi. Là, avec les paires de chaussures, des habits, ça me touche d'imaginer qu'il y avait quelqu'un qui avait ces habits, qui est mort dans cette tragédie qui est passée.
Je suis navigateur à voile. Toutes les choses qui sont avec la navigation, les dangers de la navigation m'intéressent. C'est pour ça que j'ai regardé un peu ce qu'ils ont fait pour éviter l'iceberg ou pas fait.
Alors moi j'adore les croisières, donc c'est un petit peu ça qui me booste à venir voir une expo comme ça.
Merci beaucoup pour ces témoignages. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt.
Les murs de la prison de Montluc à Lyon sont imprégnés des violences du XXe siècle. Des résistants et des enfants juifs y ont vécu des heures sombres. Des Algériens y seront torturés. Dans son récit, la nuit s'ajoute à la nuit. Ananda Devi se confronte à la mémoire de cette souffrance humaine. De l'esclavage, son histoire, elle est mauricienne, à la Shoah. Un récit intime qui pose une question troublante. Qu'aurions-nous fait à leur place?
À voix haute,
Ananda Devi.
Manuela Salvi.
Bonjour Ananda Devi.
Bonjour.
Vous êtes romancière et poétesse, autrice d'une œuvre foisonnante, Le Sarivert, Le Rire des Déesses, Les Jours des Caméléons. Vous avez reçu de nombreux prix, le prix Neustadt, prestigieux, prix Neustadt 2024, et le prix de la langue française en 2023. Des racines indiennes, dans vos textes, une force incroyable, des mots qui ébranlent souvent, alors que vous avouez être timide. Quelle différence entre celle qui écrit et celle qui vit ?
J'ai toujours eu l'impression d'être double. Adolescente, j'ai eu conscience que je voulais être écrivaine. Mais j'étais d'une timidité quasiment maladive, qui faisait que je n'ouvrais pas la bouche devant d'autres personnes.
Vous écriviez.
Mais j'écrivais. Et par contre, quand j'écrivais, je n'avais pas peur. Et j'ai mis beaucoup, 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 beaucoup de temps pour avoir l'impression que finalement les deux commençaient à se rejoindre un peu et que la femme timide finissait par se nourrir de l'écrivaine sans peur. Et peut-être vice-versa, je ne sais pas.
Cette force et cette timidité dans la nuit s'ajoutent à la nuit, c'est le titre de votre dernier livre dans la collection Ma nuit au musée, ça publié chez Stock. Alors, on ressent très fort cette force et cette timidité. Et là, vous vous dévoilez, vous dites, j'ai tenté de vivre un livre avant de l'écrire.
Oui, c'était très étrange comme expérience parce que cela ne m'est jamais arrivé. Et là, dès le début du livre, ça commence par les mots, commencer par le vide. Je voulais vraiment être une page blanche au moment de m'introduire dans cette prison et de passer une nuit où je laisserais venir tout ce que cette prison elle-même avait porté, mais tout ce que moi je portais en moi, peut-être de sensibilité à la souffrance des autres. Et je ne voulais pas m'emplir l'esprit d'a priori ou d'intention avant de vraiment vivre le livre.
Et vivre cette nuit seule dans une prison, exercice étrange et difficile, la prison de Montluc, de sinistre mémoire, des Juifs y ont été fusillés, des Algériens incarcérés, les enfants de Lisieux, ces 44 enfants qui ont été finalement déportés, ont passé par cette prison-là. Votre livre est à la fois lourd et lumineux. Et la première fois que vous avez visité cette prison, c'est devenu un mémorial. Vous avez été prise d'un mal de dos fulgurant.
Oui, dans une nouvelle que j'ai écrite après la première visite de cette prison, j'ai dit « je crois que c'est le prix à payer ». Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que ce n'était qu'une espèce d'entrée en matière et que cette prison allait me hanter. Je ne crois pas vraiment au hasard. Donc le fait que peu de mois après, j'ai cette proposition de Stock pour passer une nuit dans un musée de son choix, l'idée du mémorial m'est venue immédiatement, tout en sachant la peur au ventre que ça allait être difficile, mais en sachant aussi que s'il fallait écrire un livre à partir d'une nuit blanche dans un lieu, c'était ce lieu-là.
Nuit blanche ou nuit noire? Parce que vous vous confrontez à Nanda Devi dans cette prison, à des histoires douloureuses, à la violence du XXe siècle. Cette prison, pendant tout le XXe siècle, elle a été fermée en 2009, l'aile des femmes fermée en 2009, et ses murs sont imprégnés d'une mémoire douloureuse.
C'est-à-dire qu'on le ressent tout de suite, et je ne suis pas la seule, beaucoup de ceux qui visitent cette prison, parce qu'elle a été gardée en l'état. Donc, quand on entre dans une cellule, on a l'impression de voir exactement là où étaient emprisonnées ces personnes qui ont été incarcérées là.
Vous parlez de la jaunisse, la couleur des murs.
Elle est là. Je dis parfois que les hôpitaux aussi ou les prisons, on a l'impression qu'on les fabrique pour éteindre l'envie de vivre. Ce n'est sans doute pas vrai, mais il y a quelque part cette espèce de jaunisse, en tout cas dans cette prison-ci en particulier, mais aussi l'idée que dans ces cellules de 4 mètres carrés, au départ prévues pour une personne et puis qui ont été, pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu au moins 10, 12 personnes entassées là, et je suis absolument convaincue qu'il y a une mémoire des lieux.
Mémoire des murs.
Mémoire des murs. Que lorsque un lieu a vécu tant de souffrances, et comme vous dites, sur quasiment un siècle, quelque chose en demeure, et pour peu qu'on y soit sensible, on ne peut pas s'empêcher de le ressentir.
Comment vous les avez vécues, ces longues heures dans cette nuit blanche? Parce que vous n'avez pas dormi, même si vous aviez un lit de camp à disposition. C'est l'idée de la collection, hein, une nuit avec un petit lit de camp. Comment vous les avez vécues, ces heures qui se sont égrenées? Vers 5 heures du matin, ça devient difficile.
Au départ, j'avais un carnet, un crayon. Donc je me suis assise, je me dis je vais noter mes impressions. Ensuite, je me suis rendu compte que pour noter, il fallait que je sois assise et que ce n'était pas la meilleure manière d'éprouver le lieu dans le sens vrai du terme, d'épreuve.
Parce que vous allez visiter les cellules et vous confronter aux photos de ceux qui avaient été et celles qui avaient été incarcérées là.
Exactement. Donc, dans chaque cellule, il y a une photo. Au fur et à mesure de la nuit, j'avais vraiment l'impression d'être happée par ses regards, par ses photos, d'avoir envie de connaître les individus. Pas des héros, parce qu'ils ne se décrivaient pas en héros, mais des individus qui avaient fait le choix d'une résistance, qu'ils aient 18 ans ou 25 ans ou 30 ans. Et ça, c'est extraordinaire.
Et vous avez essayé de comprendre, pendant les longues heures de cette nuit passée dans cette prison devenue un mémorial, vous avez essayé de comprendre, je vous cite, « quelle lumière essentielle les résistants ont opposée aux ténèbres ?»
Absolument. C'est vrai que c'est un livre très sombre. Et cela dit, à la fin, oui, s'il y a une lumière qui en ressort, c'est que l'homme est capable de tout. Et ces personnes qui ont été là, pour la plupart, ont été ceux qui ont cru dans la justice, dans une sorte de besoin de s'opposer à la noirceur, s'opposer à la violence, s'opposer à la domination. Et je pense que c'est une leçon à apprendre encore aujourd'hui.
Comme une étincelle d'humanité.
Bien sûr, et encore plus aujourd'hui, parce qu'il faut dire qu'après ma nuit blanche qui était en mars 2023, j'ai pris presque exactement un an pour écrire et terminer, finaliser le livre. Et pendant cette année, il y en a eu des violences affreuses. On a eu ce qui se passait en Ukraine et
Gaza,
bien sûr. Tout ce qui se passe à Gaza, tout ça semblait se... entrer par osmose dans le livre.
Est-ce que vous diriez que l'histoire ne nous apprend rien ?
C'est plus facile d'oublier que de se souvenir et d'apprendre. C'est plus facile de trouver toutes sortes de motifs à la haine, au rejet des autres. On laisse mourir aujourd'hui des personnes quotidiennement et nous recevons ces nouvelles vraiment tous les jours. Et pourtant, ça finit par devenir une sorte de banalité du monde et que l'indifférence devient peut-être le grand crime puisqu'on se dit on n'y peut rien et donc on ne fait rien. Mais à cette époque-là, c'était des jeunes qui se disaient on peut, nous pouvons et nous allons le faire.
Et ils se sont mis debout. Une question, Nanda Devi, traverse votre livre, c'est qu'aurions-nous fait à leur place ? Est-ce que chacun et chacune d'entre nous, on a tous un moment de bifurcation où des choix essentiels se font et se défont et se posent la question de l'engagement ? Est-ce que je me mets debout ? Est-ce que je me révolte ?
Je crois que le grand problème de notre époque, c'est que on est dans un manichéisme constant qu'on juge très facilement sans connaître la complexité ni de l'histoire ni de l'humain. Et que ce qui est important avant de juger, c'est de comprendre, de savoir d'où l'on vient, d'où est venue cette violence. Donc, comprendre l'histoire et que c'est un continuum, tout est lié. Je mentionne Cocteau dans le livre qui parle de l'histoire des hommes et de l'éternité pliée. Que tout est lié comme si un trou d'épingle passait à travers une étoffe repliée et que lorsqu'on ouvre l'étoffe, on voit des trous séparés, mais tout est lié. Et je pense que sans cette compréhension à la fois de l'histoire de l'humanité qui a mené vers ces grands crimes contre l'humanité, comme l'esclavage, comme la Shoah et comme aujourd'hui ce qui se passe en Palestine, je pense aussi que l'être humain lui-même est capable de ces choix extraordinairement divergents. On a beau se dire, moi, jamais je ne ferai ça, mais qu'en sait-on ? Et ce que l'histoire porte au nu, peut-être en héros, ils empêchent de voir l'humain derrière les héros. Et l'humain peut aussi faire des choix héroïques, mais aussi des choix ambigus.
D'ailleurs, vous citez le seul prisonnier qui s'est évadé de la prison de Montluc, j'ai oublié son nom.
André de Vigny.
Qui était résistant et qui devient ensuite colonel dans l'armée française et qui a commis des exactions pendant la guerre d'Algérie.
Absolument, et il faisait déjà partie de l'armée et il a écrit des livres donc, sur son passage à Montluc où il a été effroyablement torturé. C'était un des plus jeunes résistants d'ailleurs à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, il va réintégrer l'armée pendant la guerre d'Algérie. Et pendant mes recherches, je vois que certains disent oui, il était un peu réac. Je préfère croire en lui plutôt que de croire qu'après, il a retourné la casade. Mais cela est aussi possible. Donc, nous sommes tous ainsi, très ambigu, très complexe, et il ne faut jamais ni trop glorifier, ni condamner facilement.
Parce qu'il y a des postures et des mensonges, mais aussi des étincelles de vérité. Vous dites, Ananda Devi, tout est lié, vous citiez cette étoffe dépliée avec les trous, vous avez cité l'esclavage, et Klaus Barbie, lorsqu'il était chef de la Gestapo à Lyon, parlait des Juifs en parlant de tête, comme du bétail, et ça vous a rappelé l'esclavage.
Alors oui, absolument, et il faut que je dise que une fois que j'avais pris la décision d'écrire ce livre sur cette prison, le doute revient et je me suis dit, mais de quel droit je vais écrire ce livre sur une époque de l'histoire française qui n'est pas la mienne?
Avec quelle légitimité?
Quelle légitimité? Ce n'est pas mon histoire familiale, ni dans ma généalogie. Donc comment s'emparer d'une histoire qui n'est pas la sienne, qui est une question qui est souvent posée aujourd'hui aux écrivains, peut-être moins avant, aujourd'hui beaucoup. Donc je pense que c'est nécessaire de se poser la question au moment d'écrire et en même temps de savoir répondre à sa propre question. Et voilà que quand j'ai vu ce télégramme de Klaus Barbie lorsqu'il a réussi à arrêter 44 enfants juifs qui étaient protégés dans la colonie de Dizieux avec les personnes qui les entouraient, et il parle d'eux comme de têtes. Et ça m'a rappelé l'histoire de l'esclavage qui fait partie de l'histoire de Maurice, où on parlait aussi de têtes, comme de têtes de bétail. Et je dis à ce moment-là que l'esclavage, comme pendant la Shoah, on jugeait les êtres selon un critère d'utilité. Donc tant qu'ils pouvaient être utiles, on pouvait les garder vivants. Et aussi la déshumanisation totale.
Donc essentiel de se poser ces questions-là, la question du bien et du mal, d'autant plus essentiel, vous l'avez dit Ananda Devi, que le désordre du monde envahit nos esprits. Vous dites à la fin du livre, de l'écriture de ma nuit, qu'aurais-je appris? C'est la dernière page du livre. Vous, Ananda Devi, qu'avez-vous appris après cette nuit et l'écriture de ce livre?
C'est une belle question, mais une question difficile. Je parle à un moment de faire acte de présence.
Alors, de présence au monde.
De présence au monde, exactement. Mais je me poserai toujours la question, écrire suffit-il? Je le pose aussi dans ce livre. Mais c'est ma manière de faire acte de présence au monde.
Et de vous engager dans ce monde. Qu'avez-vous l'espoir de transmettre avec ce livre aux lecteurs et aux lectrices?
L'espace de la lecture d'un livre, il y a une sorte de pacte qui se fait entre l'écrivain et les lecteurs. Et j'espère qu'à ce moment-là, le lecteur s'engage lui aussi de la même façon, entre dans cette pensée, entre dans cette manière de voir peut-être autrement les choses et de rien que de se poser la question, parce que l'écrivain n'est pas là pour donner des réponses, mais pour poser des questions. Et si tant que les lecteurs lisent un livre et se posent les mêmes questions après, je pense que c'est quand même un pari qui est important. C'est un engagement qui est important et je suis absolument convaincue que la littérature aura toujours sa place dans ce questionnement de l'humain.
Et un pari qui compte et votre voix compte, Ananda Devi, La Nuit s'ajoute à La Nuit, magnifique titre, publié chez Stock dans la collection Ma Nuit au Musée. A signaler aussi que votre tout premier roman, Rue de la Poudrière, il date de quelle année?
Il a été publié en 1988, mais je l'ai terminé en 1984, donc ça fait 40 ans.
40 ans, republié aux éditions Projectile, île comme l'île, comme votre île, comme l'île Maurice.
Exactement, et c'est une jeune maison d'édition qui se tourne justement vers les îles, les diasporas, et qui fait un très très beau travail.
Rue de la Poudrière, merci Ananda Devi.
Merci Manuel. My blood, air, my breath and fire, my spirit, earth, my body, water, my blood, air, my breath and fire, my spirit, earth, my body, water, my blood, air, my breath and fire, my spirit, earth, my body, water, my blood, air, my breath and fire, my spirit, oh, my baby, you are the one. Hold you close, watch you grow under the sun. Oh, my sweetness, ancient love is new. In your eyes, in your smile, everything you do. Earth, my body, water, my blood.
my breath and fire, my spirit. Oh, my baby, you are the one. Hold you close, watch you grow under the sun. Oh, my sweetness, ancient love is new. In your eyes, in your smile, everything you do. Earth, my body, water, my blood. Air, my breath and fire, my spirit. Earth, my body, water, my blood. Air, my breath and fire, my spirit. Earth, my body, water, my blood. Air, my breath and fire, my spirit.
Vous êtes bien sur la première. Après les informations, vous retrouverez Playlist avec Franck Mater. Et pour le moment, il est 23h.